À toutes et à tous. C'est vrai que je devrais aussi vous dire bonne année à tous, puisqu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Je sais qu'en France, on dit généralement, mais ce n'est pas une loi, qu'on a le droit de se présenter les vœux que jusqu'au 31 janvier, minuit. Alors à quelques heures près, je prends ce droit. Et c'est vrai que nous souhaitons, après tout, il n'y a qu'un 12e de l'année qui est passé, donc il y a encore du temps. Que le Seigneur permette que cette année soit une année encore meilleure que les autres. Je ne sais pas si l'année dernière a été pour vous bonne ou moins bonne, ou, j'ose pas le dire, mauvaise, mais même si elle avait été mauvaise, que Dieu donne à chacun de vous et de nous de passer une très bonne année. Alors, nous avons lu donc ce texte de l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens est une petite lettre que Paul a écrite donc aux chrétiens de la ville de Philippe, au nord de la Grèce actuelle. Et c'est une épître, quelqu'un a dit que c'était l'épître la plus intime que l'apôtre Paul ait pu exprimer. Vous savez que c'est dans des, comme le dit le livre des Actes des Apôtres, c'est dans des circonstances assez particulières que Paul a implanté une église, ou plutôt qu'il a prêché l'évangile dans la ville de Philippe. La ville de Philippe était une ville de garnison pour l'armée romaine et c'était une ville qui avait un statut un peu particulier. Les habitants de cette ville étaient des citoyens romains et cela n'est pas si important. Mais ce qui est important, c'est que dans ces quelques mots, l'apôtre Paul donne des instructions qui entourent une petite parole et c'est pour cela que j'ai donné ce titre au message. Le Seigneur est proche, vous voyez, c'est à la fin du verset 5, comme si ces instructions qu'il donne, il y a d'abord l'instruction de se réjouir, puis l'instruction de que notre douceur soit connue de tous les hommes, ensuite l'instruction de ne pas s'inquiéter, et pour finir, celle qui consiste à nourrir ses pensées de bonnes choses et maîtriser ses pensées. Vous savez que nous vivons dans un monde qui est en proie à la morosité, et quand je dis morosité, je ne veux pas parler du temps qu'il fait dans cette région. Vous savez que l'hiver est une période assez grise dans la région parisienne. Non, la morosité, c'est le moral des gens. Les habitants de notre pays, de France, sont des gens qui n'ont pas trop le moral, qui, je ne veux pas dire qui dépriment, mais la dépression est un sentiment qui est assez partagé par un certain nombre de gens. La morosité aussi, il n'y a pas de bonnes nouvelles à partager très souvent dans cette période de crise. Je crois que le monde dans lequel nous vivons est aussi un monde qui est en proie à la violence. La violence parce qu'on entend parler souvent d'actes violents, de terrorisme, mais aussi de guerres. Il y a des guerres dans presque tous les continents, des guerres plus ou moins durables. C'est un monde aussi en proie à l'agitation, au désordre, à l'inquiétude. Et je lisais récemment que 80% des habitants de notre pays ont peur de se retrouver au chômage. Bon, il faut prendre les proportions parce que 90% ont un travail, puisqu'il y a 10% de chômeurs environ. 90% ont du travail, mais 80% sans doute de ceux-là, puisque les autres sont déjà au chômage. 80% des 90%, c'est-à-dire une grande partie, les 4/5 de ceux qui ont un travail, ont peur de le perdre. C'est donc une période où, enfin ce sont les sondages qu'ils disent, hein, tout le monde n'a pas été interrogé bien sûr. Donc il y a une certaine inquiétude qui se manifeste parmi les gens en général, et c'est un monde qui est en proie aussi, quatrième point, aux pensées incontrôlées et mauvaises. Cela nous rappelle l'époque, dans la Bible, il est parlé de l'époque de Noé, où les pensées de l'homme allaient tous les jours vers le mal. Je crois que les pensées de l'homme aujourd'hui ne vont pas tous les jours, tout le temps, vers le mal. Mais il y a une différence entre des pensées qui sont tournées vers le mal et vers sa pratique et des pensées qui sont négatives. Je crois que c'est plutôt ça le problème. Comme vous le voyez, comme nous l'avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul apporte une réponse à ces différentes questions. À ceux qui sont atteints par la morosité, qui n'ont pas le moral, l'apôtre Paul dit... Bien sûr, il parle à des chrétiens, mais je crois que les chrétiens peuvent être contaminés par l'ambiance qui règne généralement dans la société. L'apôtre Paul commence par dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul parle à plusieurs reprises de cela. Au chapitre 1, verset 4, il dit « Je prie avec joie pour vous ». Au chapitre 2, verset 18, il dit déjà « Vous aussi, réjouissez-vous ». Au chapitre 3, verset 1, « Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et au chapitre 4, donc, ce que nous venons de lire, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». L'apôtre Paul insiste, on pourrait dire presque lourdement, puisqu'à chaque chapitre de cette petite lettre, il dit « Réjouissez-vous ». Mais ne vous réjouissez pas de n'importe quoi. Il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous parce que vous appartenez au Seigneur. Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup de raisons de nous réjouir quand nous écoutons le journal télévisé, par exemple, depuis quelque temps déjà. On n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles, comme je le disais tout à l'heure. Et il est évident que ce n'est pas dans le monde extérieur que nous allons trouver des raisons de nous réjouir. Dans un monde qui est empreint de morosité ou enclin à la morosité, l'apôtre Paul dit « Vous les chrétiens », Jésus dirait « Vous qui êtes le sel de la terre, la lumière du monde, vous qui avez un devoir, vous qui avez une mission, peut-être c'est mieux de dire mission que devoir, on n'aime pas trop le mot devoir, mais vous qui avez une mission, cette mission consiste aussi à vous réjouir dans le Seigneur, au sein d'une société, au sein d'un monde qui est emprunt, enclin à la morosité. Et pourquoi ? Parce que cela permet de témoigner de ce qui fait, de ce qui est la source de notre bonheur. L'expérience de Paul, dans la ville même de Philippe, avait été une expérience difficile, douloureuse, mais aussi une expérience de bonheur. Rappelez-vous, je crois que c'est dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres que l'apôtre Paul disait que l'apôtre Paul est arrivé à Philippe, dans la ville de Philippe, et il a prêché l'évangile avec son ami Silas. Les deux apôtres ont prêché l'évangile et ils ont eu l'occasion de délivrer au nom du Seigneur une jeune fille qui était possédée par un mauvais esprit. Cette jeune fille les suivait, les importunait. Et à un certain moment, l'apôtre Paul s'est retourné vers elle et a ordonné à l'esprit de sortir d'elle, et cette jeune fille a été libérée. Le problème, c'est que cette jeune fille rapportait beaucoup d'argent, parce qu'elle avait un esprit de divination, elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et lorsque les maîtres ont vu que cette jeune fille avait été libérée de ce mauvais esprit, qu'elle ne pouvait donc plus exercer son métier pour leur compte, alors ils ont été en colère et ils ont dénoncé les apôtres comme jetant le trouble dans la ville, et les apôtres Paul et Silas se sont retrouvés en prison. La Bible dit qu'avant d'aller en prison, ils ont été fouettés et roués de coups. Ayant été fouettés et roués de coups, ils étaient couverts de blessures, couverts de bleus, peut-être couverts à cause du fouet de marques de sang, de blessures. Il nous est dit qu'au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter et à louer Dieu. Comme quoi il est possible, même dans les moments de souffrance, de louer Dieu et de se réjouir. L'apôtre Paul avait fait cette expérience avec Silas, les Philippiens le savaient, et Paul pouvait donc parler en connaissance de cause, puisqu'il avait été lui-même un témoin de cette joie que Dieu donne. Un commentateur de la Bible a dit ceci, « Notre joie en tant que chrétien ne dépend pas de notre situation, mais de notre relation avec le Seigneur. » Il est évident que pour ceux qui comptent sur les circonstances pour être heureux, c'est beaucoup plus difficile. Souvent, on entend, et même parfois, je côtoie des chrétiens qui, lorsqu'ils sont dans des moments difficiles, perdent cette joie, ou donnent l'impression de perdre cette joie. Leur esprit est concentré sur ne plus là, et bien sûr, ce faisant, ils perdent, ou ils voient la joie du Seigneur dans leur cœur s'atténuer. La deuxième recommandation que fait l'apôtre Paul ici peut surprendre encore plus que celle qui consiste à se réjouir. L'apôtre Paul dit ensuite au verset 5 « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Alors, on a coutume de penser qu'il y a des gens qui ont un caractère doux, il y a des gens qui ont un caractère qui n'est pas très doux. Il y a des gens qui sont plus, directs dans leur réaction. Il y a des gens qui sont même irascibles ou facilement, qui se mettent facilement en colère. Il y a des gens de toutes sortes. Et on a tendance à penser, normalement, en tant qu'être humain, que la douceur, c'est le propre de certaines personnes. On dit parfois de telle personne, « Oh, c'est une femme très douce ». On le dit plus pour les femmes peut-être que pour les hommes. « C'est une femme très douce ». Parfois, on dit « C'est un homme qui est très doux ». Ça arrive aussi quelquefois. Mais je crois que ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. La parole de Dieu nous dit que, autant que la joie, la douceur est une manifestation du fruit de l'Esprit de Dieu. Dans Galates, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, juste un instant, Galates 5, 22, je lis ceci, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, et un peu plus loin, la foi, la douceur. » Donc, la joie, c'est certain, mais la douceur aussi est une manifestation du fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, vous savez que l'Esprit de Dieu, dit la Bible, vient habiter en nous. Il vient s'installer en nous. Et il va nous donner une nouvelle nature. Et avec cette nouvelle nature, nous allons vivre différemment. Paul dira aux Corinthiens, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et cela montre bien qu'il y a un changement qui doit être plus ou moins radical entre la vie d'avant et la vie d'après. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout chrétien qui fonctionne normalement, tout chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui laisse cet Esprit de Dieu s'exprimer en lui, va manifester naturellement, je devrais dire surnaturellement, mais d'une manière naturelle dans le sens logique du terme, tout logiquement, cela va découler de soi, il va devenir quelqu'un qui aime les autres, il va devenir quelqu'un qui a la joie du salut, la joie du Seigneur dans son cœur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et il va devenir quelqu'un, cela c'est plus inattendu, dont la douceur va constituer une des nouvelles caractéristiques. L'homme, parce que généralement on pense plutôt que c'est l'apanage des hommes, l'homme même le plus, je dirais, le plus violent de nature, cet homme-là est appelé, s'il donne sa vie à Christ, à devenir un homme doux, d'une douceur qui n'a rien de naturel, mais qui est surnaturel. Il ne va plus pratiquer la violence. Il va agir d'une manière douce. Jésus lui-même, nous avons deux modèles particuliers dans la Bible. Bien sûr, le modèle suprême, c'est Jésus. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Il a dit, « Je suis, il a dit aussi, « Je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux. Jésus n'était pas un homme faible, comme l'ont pensé certains, parce qu'il disait cela. Jésus a dit aussi, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » La douceur, c'est le refus de la violence. La douceur, c'est le contraire de la violence. Mais la douceur, ce n'est pas de la faiblesse. La douceur dont parle la Bible est une qualité remarquable que tout être humain peut posséder. Il nous est dit dans l'autre modèle, c'est Moïse. Il est dit dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3, et cela, bien sûr, dépend des traductions, mais dans une certaine traduction, la traduction synodale et la traduction Darby, il est dit, lorsque vous vous rappelez peut-être, lorsque à un certain moment, le frère et la sœur de Moïse, Aaron et Marie, Myriam, se sont un petit peu révoltés en disant, mais pourquoi est-ce que c'est toujours par l'intermédiaire de Moïse que Dieu parle? Vous savez, quand le frère et la sœur deviennent jaloux, c'était le petit frère, Moïse. C'était le petit frère, le dernier-né. Quand ils deviennent jaloux de leur petit frère parce que c'est lui que Dieu a choisi pour diriger le peuple, vous savez que des fois, les frères et sœurs ne sont pas trop d'accord pour que ce soit le petit frère qui dirige. Parce qu'en quelque sorte, le petit frère les commandait. C'était lui qui dirigeait le peuple de Dieu. On retrouve un petit peu ce même syndrome, si je peux dire ainsi, dans l'histoire du roi David. Vous savez, quand le prophète Samuel vient dans la maison du père de David, Jessé, il vient dans la maison de Jessé, ou Isaïe, selon certaines autres traductions, quand il vient dans la maison de Jessé, il lui dit « Le Seigneur m'envoie », et il fait comprendre à Jessé que l'un de ses fils a été choisi pour devenir le nouveau roi, le futur roi, parce que Saül va régner encore un certain nombre d'années. Et alors, Jessé pense que, comme il a 7 fils, il pense que ce sera sans doute le premier, l'aîné. En plus, il est grand, il est fort, il est robuste, comme le roi Saül l'était, grand, fort. Il paraît que le roi Saül dépassait de la tête, d'une tête tout le monde, donc ça fait, une tête, ça fait à peu près 20-25 cm, hein, ça dépend des têtes, vous allez me dire. Mais il était quand même nettement plus grand que tout le monde. Mais Éliab était aussi un homme grand et fort. Éliab, c'était le fils aîné de Jessé, le frère aîné de David. Et vous savez que c'est finalement David qui a été choisi. Samuel a vu défiler les 6 grands, les 6 premiers fils, et il a compris que c'était quelqu'un d'autre. Et il a dit à Éliab, il a dit à Jessé, mais tu n'as pas un autre fils? C'est tout ce que tu as comme fils? 6, c'était déjà pas mal. Il a dit, j'en ai encore un autre, le petit, mais il est dans les champs, il garde les moutons. Et Jessé a fait appeler David, et David est venu, et c'est là que Dieu a dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi. Mais un peu plus tard, nous voyons que lorsque David se rend sur le champ de bataille pour rencontrer le géant Goliath, son frère aîné le regarde de haut, il le méprise. Et je ne sais pas ce que le frère aîné est devenu quand David est devenu le roi d'Israël. Est-ce qu'il était fier que son petit frère soit le roi d'Israël? Mais on a aussi des raisons de penser qu'il rongeait son frein et qu'il n'était pas heureux de ce que ce n'est pas lui, le fils aîné, qui était choisi. Moïse a connu cela avec son frère et sa sœur, et lorsque son frère et sa sœur se sont révoltés contre lui, pas beaucoup, mais ils se sont quand même rebellés contre lui, il nous est dit que Moïse est resté calme parce que c'était l'homme le plus doux de la terre. Le livre des Nombres dit « Il n'y avait pas d'homme aussi doux que Moïse ». D'autres traductions disent « Il n'y avait pas d'homme aussi humble ou aussi patient ». Cela fait un ensemble et cela nous explique un peu mieux la valeur exacte, la traduction, la signification exacte du mot « doux ». Un homme doux, un être doux, parce que c'est pour les hommes comme pour les femmes, le fruit de l'esprit. Un homme doux, c'est un homme qui est humble, c'est un homme qui est patient, c'est un homme qui ne réagit pas de but en blanc, c'est un homme qui n'est pas dans la réaction, mais dans l'action plutôt, ou dans l'état. Il est doux parce que Jésus est doux, il est doux parce que la douceur est un fruit de l'esprit. Alors, Paul dit que cette douceur-là, que votre douceur, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul ensuite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Là encore, nous pouvons être étonnés et nous dire, mais ne s'inquiétez de rien. Qui pourrait dire cet après-midi parmi nous, moi, je ne me suis jamais inquiété de rien. À moins que vous soyez très jeune, parce que généralement, il faut être très jeune pour ne s'inquiéter de rien. Et encore, je pense que lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 7-8 ans, je ne pense pas que je m'inquiétais de grand-chose. Je ne me rappelle pas avoir vécu dans l'inquiétude du matin au soir. Mais c'est vrai qu'en grandissant, on apprend malheureusement à s'inquiéter. On pense à des tas de choses et on espère, comme disait tout à l'heure dans le sondage, on espère trouver un travail. Certains sont obsédés par la recherche d'un partenaire, d'une femme, d'un mari. D'autres espèrent devenir riches. Chacun a ses inquiétudes. D'autres espèrent ne jamais tomber malade ou ne jamais avoir de maladie grave. Mais ne pouvons-nous pas dire que l'inquiétude est naturelle? L'inquiétude est naturelle. Alors que veut dire Jésus? Que veut dire l'apôtre Paul? Je dis Jésus parce que Jésus aussi a dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain, de ce que vous allez mettre comme vêtement. » Et on pourrait dire « Mais pourquoi est-ce que Jésus, pourquoi est-ce que Paul ici dise « Ne vous inquiétez de rien ?» Je pense tout d'abord, la première raison, c'est parce que il doit être possible, sinon il ne le dirait pas, ni Jésus ni Paul, il doit être possible, non pas de vivre une vie sans s'inquiéter, mais d'apprendre à ne pas s'inquiéter. Il s'agit plutôt de cela. Il est possible d'apprendre à ne pas s'inquiéter. Sinon, Paul ne le dirait pas, sinon Jésus ne l'aurait pas dit. Ensuite, comme Jésus l'a dit dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit que par l'inquiétude, on ne pouvait pas rallonger sa vie. Il avait dit d'une coudée, c'est-à-dire d'un demi-mètre, c'était une manière figurée de le dire, l'inquiétude ne rallonge pas la vie. Et les médecins aujourd'hui ou les psychologues diront peut-être qu'elle peut la raccourcir. Parce que si on se fait trop d'inquiétude, ça peut jouer un effet sur notre santé. Mais il est certain que l'inquiétude ne peut pas la rallonger. Ensuite, et c'est peut-être là le point principal, l'un des deux principaux, il y a ensuite un quatrième point, l'inquiétude, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit que l'inquiétude, la recherche de ce qu'on va manger, de ce dont on va être vêtu et de tous les autres besoins de la vie, l'inquiétude nous fait ressembler aux païens, c'est-à-dire à ceux qui ne croient pas en Dieu, à ceux qui ne savent pas qu'il y a au ciel un Dieu puissant qui veut devenir notre Père en Jésus. Et c'est cela l'un des points capitaux, le fait que cette inquiétude va nous faire ressembler à des gens qui n'ont pas de Dieu. Nous pouvons dire, moi je crois en Dieu, moi je suis chrétien, moi je fréquente l'Église, moi je lis la Bible, moi je prie tous les jours. Mais si nous exprimons devant les autres nos inquiétudes en permanence, les autres vont nous dire, mais ne me parle pas de ton Dieu, parce qu'apparemment, tu as autant d'inquiétudes, sinon plus que moi qui n'ai pas de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, ces choses-là, ce sont les païens, ce sont les non-croyants qui les recherchent. Et puis je crois qu'il y a aussi une quatrième raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter. Nous la trouvons dans la parabole du semeur, quand Jésus dit que la semence qui est tombée parmi les épines, c'est la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui tombe dans un cœur, mais qui est étouffée ensuite par les soucis. Dit par les soucis, par les richesses et par les plaisirs de ce monde. La semence de la parole de Dieu qui est déposée dans nos cœurs, si nous nous faisons constamment du souci, cette semence n'a aucun effet. Normalement, la parole de Dieu, la Bible, doit créer en nous la foi. Paul dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Ce sont les paroles, c'est le message que Dieu communique dans sa parole qui apporte la foi. C'est la voix de Dieu qui apporte la foi. Si on recherche la foi dans toutes sortes de bruits que l'on entend, c'est pour cela qu'on ne la trouvera pas. C'est pour cela que Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et pas de ce qu'on entend tous les jours. Pas de ce qu'on entend, par exemple, à la télévision ou à la radio, ou de ce qu'on lit dans les journaux. La foi ne peut pas grandir en lisant cela. Il peut être nécessaire, il est bon de se tenir au courant de ce qui se passe. Mais la foi, elle, ne peut venir que de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui communique la foi. C'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu fait qui peut encourager la foi. C'est quand on sait que Dieu est capable de tous les miracles, que Dieu est capable de transformer une vie, que Dieu est capable de pourvoir, comme dit un peu plus loin Paul aux Philippiens, que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. C'est lorsqu'on lit dans le sermon sur la montagne que Dieu est notre Père, que nous avons au ciel un Père qui connaît nos besoins et qui va y pourvoir. Et Jésus conclut en quelque sorte son sermon sur la montagne, enfin une partie du sermon sur la montagne, en disant que si nous recherchons le règne de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, tous nos besoins seront pourvus. Conclusion, nous n'aurons plus besoin de nous faire de soucis. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il enchaîne en disant au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Celui ou celle qui apprend à ne plus se faire de soucis, va faire l'expérience, une expérience extraordinaire, c'est qu'il va se laisser remplir peu à peu de la paix de Dieu. La paix de Dieu, pourquoi ? Parce qu'il ne se fait plus de soucis. Il compte sur Dieu. Il a confiance en Dieu. Et parce qu'il a confiance en Dieu, Dieu va faire régner en lui sa paix. Et il y a ici une expression très intéressante quand il est dit que la paix de Dieu gardera vos pensées. Bien sûr, la paix de Dieu, c'est une paix surnaturelle. Ça n'a rien à voir avec la paix des hommes. Vous savez que la paix, les hommes font la paix, mais on ne sait jamais s'ils ne vont pas recommencer à faire la guerre. Chaque fois qu'il y a un traité de paix, quelqu'un a dit un jour, les traités de paix sont faits pour être rompus. Et c'est vrai qu'on pourrait citer de nombreux exemples de pays qui ont signé la paix et qui, quelque temps après, ont recommencé à se faire la guerre. Il y en a qui concluent des traités tout le temps et qui recommencent quand... C'est un petit peu comme les cessez-le-feu. On conclut un cessez-le-feu, mais la semaine d'après, ça y est, le cessez-le-feu est déjà rompu. Ça, c'est la paix des hommes. Il y a aussi la paix qu'on réclame, par exemple, à ses enfants quand on leur dit « fichez-moi la paix ». C'est une drôle d'expression, ça. J'ai jamais aimé cette expression. Pourquoi ? Parce que la paix, c'est quelque chose de magnifique. Mais on ne fiche pas la paix. On l'offre, on la donne, on en fait cadeau. La paix, quelque chose de glorieux. Et on dit cela simplement pour dire, allez-vous-en, si vous voulez faire du bruit, allez le faire ailleurs. L'important, c'est que je ne l'entende pas. Mais ça, ce n'est pas non plus la vraie paix, parce que vous savez, les enfants vont peut-être se calmer, mais ils recommenceront quelques instants plus tard, ou le soir, ou le lendemain. La vraie paix, c'est la paix de Dieu. Jésus dit à ses disciples, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix de Dieu, dont Paul dit ici qu'elle surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et le mot garder ici est la traduction d'un mot qui, dans le texte original grec, veut dire elle va servir comme de sentinelle. La paix de Dieu va régner dans nos cœurs et elle va se comporter comme une sentinelle pour garder nos cœurs et nos pensées. Elle va entourer nos pensées et nos cœurs. Elle va permettre à notre cœur de vivre dans la sérénité. Pourquoi ? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Elle va nous donner la capacité de ne plus nous inquiéter en comptant sur Dieu. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de ne pas se faire de soucis, mais avec l'aide de Dieu et de son esprit qui habite en nous, nous pouvons apprendre à ne plus nous faire de soucis. C'est une expérience exaltante qui nous est proposée de faire. Enfin, Paul nous parle de nos pensées. Vous savez que les pensées, c'est le cœur du problème. Il est difficile de rester sans penser. Parfois, on fait l'expérience, on est avec une autre personne et cette personne nous voit réfléchir, elle nous voit silencieux. Et alors, de temps en temps, l'autre personne nous dit « Mais tu penses à quoi ?» Et qu'est-ce qu'on répond ? À rien. Vous êtes là depuis 2-3 minutes, sans dire un mot, les yeux perdus dans le vague, et on vous dit « Tu penses à quoi ?» Et vous dites, ou je dis, « À rien. » Mais c'est impossible de rester 2-3 minutes sans penser à rien. Ça voudrait dire qu'on aurait réussi à faire le vide total. Notre esprit, qui est toujours en activité, ne se serait posé sur rien du tout. C'est comme si on disait à quelqu'un, « Tu regardes quoi, là ?»« Rien. » »« Tu as les yeux ouverts, donc tu regardes quelque chose. » Eh bien, c'est la même chose avec l'esprit. L'apôtre Paul touche le cœur du problème. Un jour, un empereur romain qui s'appelait Marc Aurèle a dit, « La vie d'un homme, elle est ce que la font ses pensées. Comme tu penses, ainsi tu vis. Nos pensées sont l'objet d'une bataille, ont dit certains, entre Dieu et Satan. Satan essaye de nous inculquer des pensées mauvaises, des mauvaises intentions, des mauvais sentiments, et Dieu lui fait la guerre pour que sa paix nous inonde et nous garde nos cœurs et garde nos pensées. Et l'apôtre Paul nous donne, et je termine par cela, un petit conseil pratique qu'il est bon d'essayer de mettre en pratique tous les jours, parce que si nous le pratiquons, nous arriverons certainement à connaître cette paix de Dieu, nous arriverons certainement à vivre en apprenant à ne pas nous faire de soucis. L'apôtre Paul dit, voilà, le remède, c'est de penser, d'apprendre à penser à ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux, à ce qui est honorable, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est aimable, à ce qui mérite l'approbation, à ce qui est vertueux et à ce qui est digne d'être loué, digne de louange. Donc des pensées bonnes, positives. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il est possible, à chaque fois qu'on réfléchit, puisque je viens de dire qu'on réfléchit tout le temps, on pense tout le temps, est-ce qu'il est possible d'apprendre à ne penser qu'à des choses comme celle-là, c'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement avoir le verset 8 par cœur dans sa tête, tout le temps? Non, c'est une pratique qui est relativement facile à entretenir. C'est dès qu'il y a une pensée négative qui arrive, c'est dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aimable, est-ce que ça mérite d'être approuvé, est-ce que c'est digne de louange? Je crois que c'est un exercice pratique qu'il est très important de développer. Parce que, encore une fois, nos pensées sont au cœur de notre vie. C'est nos pensées qui nous poussent à nous faire du souci. Ce sont des pensées négatives, ou c'est un mode de raisonnement négatif. C'est un raisonnement qui n'est pas fondé sur la capacité qu'a Dieu, étant notre Père, de nous garder, de pourvoir à tous nos besoins, de conduire toutes choses, de prendre en main les événements, comme dit le livre de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28-29, par là, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, nous pouvons être assurés que quel que soit l'événement dans notre vie, même s'il nous paraît négatif, cet événement qui en apparence est négatif va être utilisé par Dieu pour apporter une bénédiction, d'une manière ou d'une autre. C'est cela que Paul veut dire. Apprenons, entraînons-nous à contrôler nos pensées et à les placer sous la dépendance de l'Esprit de Dieu. Apprenons à n'accepter comme pensée, bien sûr, vous allez me dire, il est impossible de ne pas avoir des pensées négatives de temps en temps. Et alors là, je repense à mon ami, à notre ami Martin Luther, que nous n'avons pas connu, bien sûr, mais Martin Luther a eu cette expression un jour, il a dit, vous connaissez sans doute cela, il nous est impossible d'empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais il est possible de les empêcher d'établir leur nid sur notre tête. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nous. On ne peut pas essayer de les attraper, ils volent trop déjà, souvent. Mais on peut les empêcher. Il voulait dire par là, on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Il voulait dire par là que les mauvaises pensées, il y en aura toujours. Les pensées négatives, nous en aurons toujours, qui arriveront. Mais nous pouvons faire en sorte qu'elles ne demeurent pas en nous, parce que Dieu nous en donne la capacité. C'est pour cela que Paul a dit cela aux chrétiens de la ville de Philippe. Réjouissez-vous, parce que c'est possible de se réjouir, même dans les difficultés. Ensuite, il leur a dit, attendez que je réfléchisse, qu'est-ce qu'il a dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est possible d'avoir un comportement non violent, non pas simplement comme une mode, la non-violence, mais parce que l'Esprit de Dieu nous rend des hommes, nous rend doux, des hommes et des femmes qui sont caractérisés par une douceur toute surnaturelle. Ensuite, il est possible d'apprendre à ne plus s'inquiéter. Il faudra sans doute remettre le travail en marche à chaque fois, pour à chaque fois qu'il y aura une inquiétude qui poindra son nez, pouvoir la chasser. Et il est possible de contrôler ses pensées avec l'aide de Dieu afin qu'elle puisse créer en nous la foi et non pas le doute ou le souci. Que le nom du Seigneur soit béni.